Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour à vous, ça va, vous êtes prêts? C'est dans deux jours maintenant, ça approche. Êtes-vous prêts pour le non-réveillon du jour de l'an? Oui, on aura tout eu, y compris un 31 sous cloche. Cloche, c'est l'autre nom du couvre-feu. Couvre-feu comprend couvre-feu d'artifice. Sauf évidemment si vous vous appelez Neymar et que vous avez prévu une bamboche de 4 jours et autant de nuits avec 150 invités, DJ et groupe live et murs de votre villa brésilienne à sonoriser. Mais nous ne sommes pas Neymar. Alors jeudi soir, soit rien, soit à la télé, Jean-Michel Jarre. Vas-y la grosse voix.
Rendez-vous le 31 décembre à partir de 23h25 sur BFM Paris pour démarrer 2021. Avec en direct le concert virtuel inédit de Jean-Michel Jarre depuis Notre-Dame de Paris. Un événement de la ville de Paris.
Ben non, pas forcément. Vaut-il mieux un réveillon avatar qu'un réveillon couché tôt? À vous de voir. Pensez à l'immense bamboche qui sera la nôtre quand nous pourrons à nouveau nous serrer, aller à la revoyure. Au menu ce matin de Culture Média de Fête, un 31 à la télé, Christophe Beaugrand clôt l'année avec un bêtisier avant de lancer la saison 5 de Ninja Warrior, le tout sur TF1. L'animateur est notre invité dans une petite demi-heure. Fais pas ci, fais pas ça, cache tes seins et épile-toi. Fais des enfants et perds des kilos, ah, l'éternel féminin. Avec la directrice de la rédaction de Cosette, Isabelle Motreau, dans 10 minutes, toutes ces injonctions faites aux femmes. Numéro spécial et série de podcast. Après 10 heures, nous tenterons une heure de tranquillité en compagnie de François Berléand, titre d'une pièce de théâtre diffusée en prime ce soir sur France 2. Enregistré hier soir avec un tout petit public, le comédien vient nous raconter et vient aussi se faire tirer le portrait par Damien Caprespine. Indispensable, Nicolas Caro, tout en poésie. La série des Varrock. Indice, nous serons ce matin à Brooklyn. Culture Média jusqu'à 11h, comme une sorte de bamboche. Soyez les bienvenus. Bonjour Thomas Hill.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Eh bien, je vous parlerai notamment de Benoît Hamon, de Roselyne Bachelot et du journal du Hard, mais ce sont bien sûr trois infos différentes.
Quel dommage. On commence par les audiences d'hier soir. Que disent les chiffres, Thomas?
Alors sur TF1, il y avait Mimi Mati qui en est quand même à sa 20e saison dans la peau de Joséphine, ange gardien. Le premier épisode hier a convaincu encore 4 600 000 téléspectateurs, un peu plus de 19% du public. Je vous en parlais hier, France 2 proposait une immersion dans le Paris du Moyen-Âge. 13% du public, 2,8 millions de téléspectateurs se sont laissés guider par Laurent Deutsch, Stéphane Bern et leurs images en 3D. Et enfin, sur M6, le troisième volet du film d'animation Cars a fait rêver 2,3 millions de fans de Flash McQueen.
Culture Média. À la une de votre journal des médias, Thomas Hill, un ancien candidat à l'élection présidentielle qui lance sa propre chaîne de télé.
Oui, Benoît Hamon vient de mettre en ligne une nouvelle web télé baptisée Sens TV, une chaîne sur laquelle on retrouve une cinquantaine d'heures de documentaires sur le travail, l'écologie ou la santé, et des entretiens menés par Benoît Hamon lui-même qui échange avec des personnalités. Alors Louise Bernard lui a demandé pourquoi il avait décidé de se lancer dans ce nouveau métier.
Quand on voit le vacarme, pardon de parler comme ça, mais ou le tohu-bohu d'un certain nombre de chaînes info et de médias classiques qui ne s'intéressent plus qu'à la petite phrase, à toujours rétrécir le temps, rétrécir les déclarations, voilà, c'est un peu une contre-programmation. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir, de démontrer surtout, qu'on pouvait se mettre d'accord sur des désaccords, c'est-à-dire avoir un débat qui soit un peu l'anti-CNews, comme ça, ça parlera à tout le monde. C'est-à-dire l'anti-polémique, on tacle pas, quoi, on clash pas, on prend le temps d'échanger sur le fond avec des personnalités qui acceptent toutes de jouer le jeu. Donc c'est plutôt agréable pour moi d'être dans la situation cette fois-ci de poser au moins autant de questions que d'y répondre moi-même.
Voilà, alors derrière ce projet anti-CNews se trouve en fait Alchimie, une société spécialisée dans les vidéos à la demande par abonnement, qui a déjà réalisé une chaîne autour de Jacques Attali, qui s'appelle sobrement jacquesattali.tv, et une autre consacrée au monde paysan avec Guillaume Canet et Édouard Bergeon, réalisateur du film Au nom de la Terre, qui s'appelle Cultivons-nous, et il revendique déjà plus de 50 000 abonnés, hein, preuve que ce nouveau modèle peut fonctionner. Sur tous ces sites, le prix de l'abonnement est le même, 4,99€ par mois.
À quand la chaîne, thomashill.tv.
Là, ça je arrive. La lance, là, bien
bah
sûr.
Oui, ça va venir. On vous tient au courant. Autre personnalité politique, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture et aussi de la Communication, réagit à sa manière à la mobilisation autour du magazine Science et Vie.
Oui, vous le savez, les journalistes de Science et Vie mènent un bras de fer depuis des mois contre leur nouvel actionnaire, ReWorld Media. Ils lui reprochent notamment de remplacer progressivement les journalistes par des chargés de contenu dont la qualité des publications est très en dessous des exigences de la revue scientifique. Alors certains députés avaient interpellé Roselyne Bachelot, rappelant les aides importantes versées par l'État à cette publication. Eh bien la ministre vient donc de lancer une mission de réflexion sur toutes ces aides à la presse, expliquant qu'actuellement l'accès à ce soutien financier n'est assorti d'aucune condition quant à la présence de journalistes au sein des rédactions. Le ministère ajoute que la séparation nette entre l'information et la pub sont nécessaires pour renforcer le lien de confiance entre les médias et le grand public. Les conclusions de cette mission seront livrées en mars.
Canal+ a choisi la remplaçante de Sébastien Thoen au journal du Hard.
Oui, Sébastien Thoen a été évincé de l'antenne fin novembre suite à son sketch sur l'heure des pros, mais le journal du Hard ne s'arrête pas pour autant sur Canal. Selon les informations du Parisien, c'est l'actrice Lily O, bien connue des cinéphiles, qui a été choisie pour ce rôle.
Côté,
enfin, bien connue de Christophe Carrière. En tout cas, notre rédac chef. Elle travaillait déjà pour cette émission, lançant le film du mois avec la particularité de ne jamais montrer son visage. C'est ce qu'elle continuera à faire dès samedi soir aux commandes de ce journal, qui sera donc sans visage.
Lily O.
Voilà.
Il faut que je me regarde.
Je ne sais pas.
Notre focus programme du jour, c'est une soirée d'Arte consacrée à l'un des plus importants réalisateurs des années 30, Frank Capra et son chef-d'œuvre.
Oui, on change de registre. Ce soir, à 23h, vous pourrez découvrir un documentaire passionnant, vraiment, sur le rêve américain de Francesco Rosario Capra, parti avec sa famille à l'âge de 6 ans de son village de Sicile et qui, 30 ans plus tard, recevra sous le nom de Frank Capra une pluie d'Oscars à Hollywood. Mais ça, c'est la belle histoire. Et le réalisateur du documentaire, Dimitri Courtin, a voulu aller au-delà. C'est ce qu'il explique à Louise Bernard.
Et moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'aller voir au-delà du conte. C'est-à-dire que ça, c'est des belles histoires qu'on se raconte, mais qu'est-ce que Capra était en vrai? Quelle a été sa vie en vrai? Est-ce que ça correspondait vraiment à la vie qu'il a bien voulu raconter? Et évidemment, on s'aperçoit qu'il a pris pas mal de liberté dans son autobiographie par rapport à sa vie réelle et fantasmée. Et que du coup, sa vie a été plus un conte souvent cruel qu'un conte optimiste. Tel que la plupart de ces films, en tout cas, se terminent.
Voilà, et puis juste avant ce doc, Arte rediffuse l'un des chefs-d'œuvre de Capra, La vie est belle. Alors on en a profité pour demander à Dimitri Courtin pourquoi est-ce qu'il fallait absolument voir ou revoir ce film.
C'est une orfèvrerie cinématographique. Tout est pensé, tout est travaillé. Il y a autant d'humour que de scènes touchantes, autant de destin collectif de cette petite ville que le destin de Georges Bellet, du héros principal. 70 ans après sa production, le film marche toujours autant. Les gens rient au même moment, pleurent au même moment. Il arrive à appuyer sur des touches sensibles. Franck Capra qui fonctionne à chaque fois. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre de cette période-là.
Voilà, cette soirée Capra, c'est donc ce soir à partir de 20h50 sur Arte.
Et Dimitri Courtin n'a rien à voir avec Lily Léo?
Non, je ne crois pas.
Simple
non,
vérification.
Non, pas de lien.
La vie n'est pas toujours belle quand on est journaliste.
Oui, Reporters sans frontières vient de publier son bilan annuel des exactions commises contre les journalistes dans le monde. 50 journalistes ont été tués en 2020, selon le décompte de l'ONG. Malgré la crise sanitaire qui a réduit le nombre de reportages un peu partout dans le monde, ce chiffre reste stable avec une particularité, c'est la hausse du nombre d'assassinats de journalistes dans des pays dits en paix, comme le Mexique, l'Inde ou les Philippines. La liberté de la presse est partout en déclin, prévient aussi dans son rapport annuel la Fédération internationale du journalisme, déplorant que dans 90% des cas d'assassinat, il y ait peu, voire pas de poursuite.
On s'intéresse pour finir, Thomas, à Pedro Almodovar qui fait de la résistance.
Et alors que le tournage de son prochain film Madres Paralelas, Mère parallèle avec Penélope Cruz doit débuter en mars, son frère et producteur Agustín Almodovar révèle au magazine Screen Daily qu'ils ont décliné les offres de plusieurs plateformes de streaming qui souhaitaient le diffuser en exclusivité. Il explique que la période actuelle est inquiétante pour ceux qui aiment voir les films sur grand écran puisque la fenêtre de l'exploitation en salle se craquelle de plus en plus. Nous pensons qu'il faut lutter lutter pour que les films soient diffusés au cinéma. Une position qui se fait de plus en plus rare dans le monde du cinéma, car en ces temps de pandémie, il est souvent beaucoup plus rentable de passer directement sur Netflix ou Amazon. Reste qu'entendre « Coucou, coucou, Paloma » dans une salle de cinéma, c'est quand même beaucoup mieux que sur son ordi.
Ouais, ça, on va l'avoir dans la tête, hein.
Pour la journée.
Jusqu'à l'année prochaine, je pense. Hablé con ella, parle avec elle, un des grands films d'Almodovar. Merci Thomas Hill, à demain,
merci, à
s'il
demain.
Vous plaît.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Depuis quand exactement? Depuis quand le corps des femmes est-il à la fois tabou, ne pas dire clitoris, ne pas parler des règles, et aussi sujet à tellement d'injonctions? Cache tes seins, bah non, montre tes seins, épile tes poils, reproduis-toi, perds tes kilos, etc., etc. Un hors-série se pose la question, réalisé conjointement par Cosette et par Ça m'intéresse, on va dire par Ça m'intéresse Cosette, plus une série de podcasts appelée Corps défendu. Bonjour Isabelle Moutreau.
Bonjour Pascal Clark.
Merci beaucoup d'être en direct dans Culture Média ce matin. C'est toujours la même histoire, hein, quand on parle du sort réservé aux femmes d'une manière générale, on se dit ça avance mais ça n'avance pas. C'est un peu ça aussi le constat en ce qui concerne le corps des femmes.
C'est vrai, c'est un peu paradoxal. On va dire quand même que ça avance de nos jours.
Oui.
On a enfin réussi à mettre le pied dans la porte du patriarcat, je pense. Mais n'empêche qu'on a quand même encore du chemin avant que les injonctions soient vraiment, vraiment terminées, quoi.
Alors, ces injonctions, ces fameuses injonctions, de quand datent-elles quand on parle de la pression sur le corps des femmes? C'est clair et net, c'est depuis la nuit des temps, et est-ce qu'il y a eu quand même des moments de répit, puisque votre hors-série, Depuis quand veut-on contrôler le corps des femmes, raconte tout ça?
Alors, il y a eu des moments de répit, mais qui sont souvent des moments de répit pervers, c'est-à-dire que quand on vous autorise quelque chose, c'est souvent pour mieux en profiter.
Exemple?
Les seins. Montrez vos seins, d'accord, mais il faut qu'ils soient à dispo, quoi. Donc, on n'a pas... Les femmes n'ont jamais eu vraiment le droit de décider elles-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, les poils, on doit s'épiler, on ne doit plus s'épiler. Au 19e, c'était très mal vu de s'épiler parce que ça voulait dire qu'on était une femme de mauvaise vie, par exemple. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'était toujours les hommes, ce sont toujours les hommes qui édictent les règles.
Mais c'est ça l'histoire.
Voilà. Hein,
on le sait, c'est un monde d'hommes, donc forcément, la vision du corps des femmes provient du regard des hommes. Et c'est là que le bât blesse.
Ah, c'est une excellente expression.
Elle est sortie comme ça, je ne sais pas quoi vous dire.
Le bas blesse beaucoup. Alors on l'écrit autrement, mais en effet, il blesse. Oui, c'est ça le problème. Il est, encore une fois, toujours le même. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la partie du corps à laquelle on pense, eh bien, il faut que ce soit géré par les hommes. Et par les règles des hommes, si j'ose dire. Les lois des hommes,
vous y mettez,
oui, moi aussi. Mais voilà, donc on a eu envie avec Ça m'intéresse histoire et Cosette de voir un peu depuis quand dataient ces choses-là, ces injonctions et ces codes. Et en fait, ça varie plus ou moins, il y a des modes, on peut le dire carrément, mais en tout cas, elles sont toujours là.
Alors bon, il y a eu quand même une époque, il y a un ou deux siècles, où il s'agissait carrément de sévices, hein, se teindre les cheveux avec de l'ammoniaque ou des briques pilées.
Oui. Je ne vous conseille pas d'essayer, mais ça marchait. Hein. Bon, les gens vivaient jusqu'à 40 ans en même temps, donc c'était pas très grave.
Ouais. Ou alors l'ablation des ovaires pour contrer la masturbation, là, c'est plus sanglant.
Ça, c'est l'histoire, la grande épopée du clitoris dont vous parlez. Alors moi, ça mériterait une émission entière. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des excisions et des ablations d'ovaires parce qu'on pensait que ça, les ovaires et le clitoris, on faisait un peu un pack. Et en gros, ça autorisait la masturbation, donc il ne fallait pas.
Si l'on parle, Isabelle Moutreau, des années 70, 1970, qui reste dans l'acceptation commune, une période de liberté, y compris de liberté sexuelle, où les femmes étaient seins nus sur les plages, est-ce que même là, Il y avait des problèmes.
Ah bah surtout là, parce qu'en fait, on a un peu pris du recul avec les années 70, les années 68 surtout, ouais. Et on s'est rendu compte que cette fameuse libération des mœurs, elle a profité beaucoup aux hommes et un petit peu moins aux femmes quand même. Alors. Pas tout, je suis un peu excessive là, parce qu'il y a quand même eu la contraception, ensuite l'IVG, etc.
Oui, puis la pilule, si on remonte le grand progrès pour le contrôle, l'autocontrôle oui. du corps des femmes, c'est quand même la pilule.
Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que pour une avancée, il y a eu pas mal de recul. C'est-à-dire que dans les années 70, d'un seul coup, on découvre tout ça, et puis ensuite... Tout a un peu reculé. Enfin, on en est quand même toujours dans certains pays à se battre pour l'IVG. Et à chaque fois, même quand c'est accepté ou on croit que les choses ont avancé, il faut rester vigilante, toujours.
Alors, il y a une série de podcasts qui accompagne ce hors-série « Depuis qu'on veut te contrôler le corps des femmes ». Et on va parler deux secondes des poils.
Oui, vaste sujet.
Vaste sujet. Haro sur les poils, ce sont des jeunes que vous avez rencontrés ou quelqu'un de votre équipe a rencontré
qui non, oui, ce n'est pas tout à fait nous qui les avons rencontrés. C'est le youtubeur Diego Morisou qui fait toujours des micro-trottoirs, on peut dire.
Voilà. On va écouter ça quand les jeunes s'expriment sur la pilosité féminine. On leur demande notamment ce qu'ils pensent des femmes qui ne s'épilent pas. Écoutez les réponses et jugez par vous-même.
La question, elle est très simple. Elle vient au premier rendez-vous, elle n'est pas épilée, elle a une touffe de ouf, c'est comment ?
On élimine direct.
Direct. Et toi ?
Ça, c'est forbidden, comme on dit, tu vois, ou pas en anglais, forbidden. Donc c'est interdit, c'est un truc de ouf.
Ça, c'est une disqualification au premier tour. Ah, on peut faire un petit effort. Oh.
Bon. Non. Toujours épilé, non, c'est important. C'est la base.
Ah, mais il y a des filles, elles disent le son et.
Non.
Quand ça arrive, elles disent ah, désolé, je suis pas épilé.
Non, toujours épilé, je me suis laissé de ciel, la base. Non.
Toi, t'es prête.
Hein. Voilà. Tout à fait.
Si au premier rendez-vous, elle vient non épilée, c'est comment ?
C'est bizarre.
Pourquoi c'est bizarre ?
Lisse, wesh.
Faut que ça soit lisse.
Non, faut que ça soit fluide. Si c'est léger, ça va.
Mais si c'est bien touffu ?
Touffu, non.
Voilà. Touffu, non.
C'est parlant, non.
Ah bah oui, mais...
Évidemment, on a le droit de souhaiter s'épiler, mais il ne faut pas que ce soit une obligation.
C'est là le hic, le problème, c'est qu'on croit toujours qu'on choisit, mais en fait, on ne choisit pas. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ces jeunes femmes, si elles ne sont pas épilées, vous l'avez entendu, vous en avez entendu une, eh ben, elle va s'interdire de prendre du plaisir quelque part, puisqu'elle va se dire, oh ben non, je ne peux pas y aller, je ne suis pas épilée, ça ne se fait pas. De où ça se fait pas, j'ai envie de dire. Mais c'est intégré, c'est assimilé, c'est quelque chose qu'on vit avec cette vérité. Si on n'est pas épilé, on ne doit pas avoir du plaisir sexuel ou des rencontres. C'est comme ça.
Et parallèlement, on remarquera que les hommes, les jeunes hommes, ou même les plus vieux, sont de plus en plus barbus. Oui. Bon, évidemment, ça ne se situe pas au même niveau, mais quand même.
Ah bah, le poil de barbe véhicule une toute autre signification. Et là encore, il y aurait besoin d'une émission entière pour en parler.
Isabelle Motreau est dans Culture Média ce matin pour Cosette et ça m'intéresse. On revient, on a encore tellement de choses. Les seins, les règles, tout ça. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Toujours en compagnie d'Isabelle Motreau, la directrice de la rédaction de Cosette, avec ce partenariat en compagnie de Ça m'intéresse Histoire,
oui.
Parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons.
Il y a beaucoup de déclinaisons.
Voilà pour ce hors-série « Depuis quand veut-on contrôler le corps des femmes ?» Je ne peux pas ne pas vous parler, Isabelle Motreau, évidemment de MeToo et aussi des violences faites aux femmes. Avec cette histoire récente qui est assez tragique, cet homme qui a abattu trois gendarmes, cet homme hyper violent avant de se suicider, et qu'apprend-on ? Eh bien que son ancienne femme avait signalé à de nombreuses reprises le potentiel violent de son ex, avait même écrit à Marlène Schiappa.
Qui a perdu le courrier, c'est ballot.
Là, quand même, malgré les discours, on met de l'argent, priorité du quinquennat, etc., ça n'avance pas.
Non, mais là, c'est vraiment un très bon exemple, hélas dramatique, mais un très bon exemple de ce qui se passe en général. C'est-à-dire que les femmes qui sont agressées, violentées, parfois jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort, signalent souvent ce qui leur arrive. Et si vous n'arrivez pas couverte de bleu avec la tête en sang, eh bien, on vous dit, madame, désolée, on ne peut rien faire.
Non, voilà. Mais on se rend compte, cas après cas, que ces femmes ne sont pas écoutées, en réalité.
Non, elles ne sont pas écoutées elles sont méprisées.
C'est ce qu'on disait au début, bon, ça avance quand même, mais ça n'avance pas tant que ça.
Voilà, il faudrait vraiment une politique beaucoup plus importante que celle qui est mise en place actuellement.
C'est une question d'argent ou pas que...
Ah, c'est pas que une question d'argent, c'est une question de point de vue, c'est une question de politique. On débloque de l'argent, bien sûr, parce qu'il en faut pour dépêcher des personnels qui vont s'occuper, s'emparer des questions, accompagner ces femmes, organiser leur mise à l'abri, etc. Ouais,
plus la formation, à l'écoute, à tous les étages.
Mais c'est une question vraiment politique. C'est-à-dire, où on s'empare de ce sujet et on se dit, on arrive au bout de ça, on arrête, on ne laisse plus une seule femme mourir sous les coups de son conjoint, ex-conjoint, etc. Ou alors, on arrive à ça. Aujourd'hui, je crois que c'est 93 femmes qui sont mortes en 2020.
Oui, une centaine, malheureusement.
Une centaine, ouais, à peu près. Enfin, voilà. C'est pas possible, quoi. C'est, la plupart du temps, on le sait, on le savait. Ce sont des meurtres prémédités d'une certaine manière par la société elle-même. C'est-à-dire qu'on a dit, il va la tuer, ça va finir comme ça, et personne ne fait rien. Les gens de bonne volonté parfois disent bah oui, on aimerait, mais on peut pas tant que la femme est pas à l'hôpital, on peut pas faire grand chose. Voilà.
Alors, puisqu'on parle de politique, il s'est passé quelque chose symboliquement important récemment. C'était lors de l'interview que Emmanuel Macron a accordé à Brut. Écoutez donc.
Quand on voit en effet des femmes qui sont dans la très grande précarité, qui sont à la rue. Elle vit tout ce que vit un homme. Et elle vit en plus deux choses, si on se parle très franchement. Elle vit la précarité menstruelle, ce que vous l'avez dit, le fait d'avoir des règles dans la rue et de ne pas pouvoir acheter de quoi se protéger, de quoi justement être digne dans la journée. Elle vit le viol, en plus des autres.
Un président de la République qui prononce le mot « règle », c'est la première fois.
C'est la première fois.
Imagine-t-on le général de Gaulle ? Bon.
Non, mais alors, je trouve très bien qu'il prononce le mot « règle », encore que bon, enfin, on est quand même en 2020. Hein.
De fait,
c'est un progrès. Je trouve très bien surtout qu'on imagine que peut-être la France va enfin faire en sorte que les femmes précaires aient le droit d'avoir des protections hygiéniques gratuitement. Mais ce qui est surtout très embêtant, c'est que ces femmes précaires existent. C'est qu'il y a tellement de femmes à la rue, c'est qu'il y en a de plus en plus. En 2018, l'INSEE avait sorti une enquête qui disait que 9,3 millions personnes vivaient sous le seuil de la pauvreté monétaire. C'est-à-dire que c'est énorme, et c'était avant le Covid, hein. Et on sait très bien que la politique, encore une fois, je vais parler de politique, mais tout l'est, surtout quand on parle des femmes, elle n'est pas du tout faite pour que cette précarité n'existe plus. Enfin, je veux dire, la pauvreté est galopante en France aujourd'hui, Covid ou pas Covid. Et ça, encore une fois, ça dépasse les protections périodiques, là. Quoique je sois très contente pour cette décision, si elle est prise.
Alors, parlons des mots tabous, parce que c'est important, évidemment, ne pas nommer les choses, c'est déjà un problème majeur. On apprend, en lisant Ça m'intéresse, Histoire, hors série, que le mot clitoris n'apparaît dans les manuels scolaires que depuis 2017. Est-ce possible?
C'est très simple, il a été découvert officiellement, le clitoris, en 1559 par Matteo Realdo Colombo, figurez-vous.
Qu'on a parlé à sa femme.
Qu'on a parlé à sa femme, mais qui curieusement connaissait l'existence, vous voyez. Bon, et alors donc, il y a eu des apparitions, disparitions du clitoris, enfin, c'est vraiment une épopée, hein. Et puis, à un moment donné, il a disparu globalement quand on a découvert qu'il servait à rien, c'est-à-dire juste au plaisir des femmes, c'est-à-dire donc rien. Donc il a disparu des manuels. Hop. Terminé, à partir des années 1940, il n'y a plus de clitoris dans les manuels scolaires. Ça n'existe pas. C'est un organe pourtant qui est très, très long et très grand et très utile.
Très utile.
Eh bien, il a fallu attendre effectivement 2017 pour qu'il réapparaisse avec sa taille réelle dans les manuels scolaires. Vraiment.
Alors que le pénis est là depuis toujours.
Oui.
Un mot pour terminer, Isabelle Motreau, sur les réactions à ces podcasts qui accompagnent ce hors-série.
Alors des réactions,
il y a de tout, non?
Oui, oui, il y a de tout. Alors on nous a dit que j'ai entendu dire que c'était un peu radical quand même sur certains points, et c'est vrai qu'on a invité des femmes qui avaient des opinions parfois très tranchées, mais il y en a eu aussi beaucoup de réactions positives et de femmes généralement qui nous ont dit ah c'est quand même bien de parler de tout ça et de dire qu'on en a marre de s'épiler quand on n'a pas envie.
Et les hommes, et comment réagissent-ils rapidement?
Alors les hommes, pareil, ils sont un peu, en général un peu choqués, parce que c'est vrai que ce sont surtout des femmes qu'on a interviewées. Alors, il y a quelques hommes, il y a Martin Winkler, il y a un historien, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont envie que, bah, qu'on parle d'eux, mais ça fait quand même à peu près 7000 ans. Hein.
Oui, c'est ça. On a de la marge. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Motreau d'être passée par Culture Média, donc ce hors-série de Ça m'intéresse, Histoire Cosette, et puis la série de podcast. Merci.
Merci à vous Pascal, et n'oubliez pas que le nouveau Cosette paraît demain.
Oh bah, vous croyez qu'on avait oublié? Pas du tout. À la une, rapide, après.
La solidarité, bien sûr.
Bien sûr, merci. À suivre sur Europe 1, le corps de Christophe Beaugrand. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Que voulez-vous donc offrir à quelqu'un né un 2 janvier alors que Noël vient de passer par là? Pas facile, sauf si ce quelqu'un est animateur télé et que le soir de son anniversaire, il présente un prime time sur TF1. Ninja Warrior, le parcours des héros, saison 5 à partir de samedi soir sur TF1. Ce jour-là, Christophe Beaugrand aura 44 ans. C'est ballot. En cas de bonnes audiences, en guise de cadeau, il lui faudra partager avec ses deux co-présentateurs, Denis Brognard et Iris
Mitenard.
Je ne sais jamais le dire.
Bonjour. Je ferai bien volontiers, je partagerai bien volontiers avec eux. Donc,
vous pouvez dire bonjour.
Oh, avec plaisir, pardon.
Bonjour, Christophe Beaugrand.
Bonjour, Pascal Clark.
Ouais, 44 ans.
Ouais,
samedi prochain.
Ça file. Donc oui, si jamais vous voulez me faire un cadeau, vous qui nous écoutez, regardez l'émission, ça sera un joli cadeau. Ouais.
On va parler de Ninja dans un instant, mais avant, c'est-à-dire après-demain, jeudi, vous présentez le grand bêtisier du 31 sur TF1. Ça tombe bien, on est le 31. Vous le présentez avec Karine Ferry. Laissez-moi deviner, Christophe Beaugrand, ce grand bêtisier a été tourné en septembre, quelque chose
alors
comme
non,
ça,
non il, a pas, il a été tourné il y a 15 jours.
Oh, pas, c'est pas vrai.
Pas en septembre, mais il y a 15 jours. Oui, c'est vrai que les émissions sont tournées à l'avance, mais généralement, c'est davantage pour pouvoir avoir les invités. On a pas mal d'invités qui viennent. On a Philippe Lachaud, on a Jean-Pierre Pernaud qui vient, on a Michel Larocque, Michel Bernier. Voilà, beaucoup de gens qui sont venus nous faire un coucou, Inès Reg, l'humoriste, il y en a pour toutes les générations. Et honnêtement, on n'aurait jamais réussi à caler nos invités un 31 décembre, hélas. Mais je sais qu'à l'étranger, il y a beaucoup d'émissions en direct le 31. Moi, je suis prêt.
Attendez, n'allez pas chercher à l'étranger. Je signale que le réveillon d'Émilie Mazoyer sur Europe 1 est en direct.
Bravo, Émilie.
Ouais, c'est très bien. Vous allez passer minuit avec l'émission?
Non, alors nous, on sera sur la première partie de soirée. D'accord. Minuit, on laissera la place à Nikos à partir de 23h30 à peu près pour une émission musicale qui s'appelle Toute la musique qu'on aime.
Ça vous amuse encore, les bêtisiers, Christophe Beaugrand?
Oui, ça m'amuse parce que je suis un enfant de la télé et que moi, les bêtises, de manière générale, m'amusent et les bêtisiers m'amusent aussi. Et c'est vrai que l'idée, c'est d'essayer de proposer des images inédites parce que je sais qu'il y a beaucoup de bêtisiers en ce moment.
Ça pue, j'ai l'impression qu'il y a des bêtisiers partout, y compris vous sur une autre chaîne.
Sur TFX, ouais, ça marche très bien. Là, on a encore fait, je vais vous sortir mes audiences, 450 000 téléspectateurs hier soir sur TFX par rapport à la case. Oui, c'est beaucoup, c'est quasiment le double. Donc,
c'est là où vous avez des pulls de Noël là.
C'est là où j'ai mes beaux pulls de Noël, exactement. Et c'est vrai que ça marche très bien, les gens aiment ça. Alors les images de TFX sont des images piochées dans le net. En l'occurrence, les images du bêtisier du 31 sont des vraies images de télévision des 12 mois écoulés.
Donc le trou de bêtisier ne tue pas trop les bêtises?
Écoutez, pour l'instant, non. Après, à voir. On en reparlera le 3 à 9h avec les audiences, okay. Et je vous dirai.
C'est difficile, votre vie d'animateur TF1 quand même. C'est le lendemain matin, l'angoisse, tout ça, les audiences.
Il y a toujours un petit stress, c'est vrai. Après, c'est pas difficile non plus. Hein. C'est un métier qu'on a choisi. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce métier que je rêvais de faire quand j'étais gosse. Donc, non, c'est pas difficile. C'est particulier, juste. Mais il y a du stress à gérer, oui. Mais après, je suis assez zen. Maintenant, j'ai d'autres préoccupations dans ma vie.
On va en parler.
Zen qu'avant.
Vos bêtises personnelles, il y en a qui mériteraient d'être dans un bêtisier. Vous avez beaucoup commis.
Oui, j'ai beaucoup commis. J'ai fait pas mal d'émissions en direct, que ce soit sur LCI, sur Canal+, à l'époque on s'était croisés il y a quelques années dans la matinale. J'ai fait Secret Story aussi, c'était en direct. Donc à partir du moment où il y a du direct, il y a de la bêtise. Et,
un exemple en tête.
Quand j'ai présenté la finale de Secret Story, la finale, je me trompe, de Danse avec les Stars, puisqu'on tournait tous les animateurs il y a 3 ans. je me suis trompé et j'ai dit Secret Story à la place de Danse avec les Stars en direct sur TF1 en disant est-ce que vous allez être éliminé de Secret et là je suis non, c'est Danse avec les Stars ce soir, je me suis trompé.
Ouais, ça
voilà,
va.
Genre
ouais.
de choses. Ouais. Non, une fois j'ai appelé un candidat qui s'appelait Darko, je l'ai appelé Sarko, ce genre
ça,
de choses.
Ouais.
Non, j'ai appelé Lambert Wilson, Christophe Lambert, bon ça tout le monde l'a fait.
Tout le monde a fait ça.
Mais voilà, non, puis des chutes, beaucoup de chutes, j'ai beaucoup aucun équilibre. Voilà. Mais il y en aura le bêtisier du 31, Karine Ferry m'a mis de côté des images me concernant. J'étais pas au courant, mais à l'enregistrement, j'ai vu ça.
Vous inquiétez pas, je vais pas vous appeler Camille Combal ce matin. Enfin, je vais essayer. Alors, Ninja Warrior saison 5 à partir de samedi, et tout a été chamboulé par ce sale virus.
Ouais.
Déjà, normalement, c'est une émission d'été. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir envie de pistoche en plein hiver?
Alors, c'est une vraie question. Ça, c'est la première fois qu'on diffuse cette émission à cette période-là de l'année. En principe, on tourne en mars pour diffuser l'été. En mars, on était en plein confinement, donc tout a été annulé. Et on a eu une fenêtre de tir troisième semaine de septembre, donc le temps de faire le montage. D'autres émissions étaient déjà prévues à l'antenne. Donc voilà, nous arrivons en hiver. Je pense que ça va réchauffer les gens de voir des beaux gosses torse nu tomber dans des piscines en maillot de bain avec des palmiers.
C'est ça risque de réchauffer, donc, effectivement.
J'espère.
Comment s'est déroulé le tournage? Ça devait être particulier. Est-ce qu'il y avait une bulle sanitaire comme pour Miss France?
Oui, c'était un peu ça. Effectivement, nos candidats étaient testés régulièrement. Il faut imaginer que Ninja Warrior, c'est un énorme barnum. Il y a 200 candidats, il y a 200 personnes dans la technique. Il y a vraiment, c'est une ville entière, hein. c'est gigantesque. Et du coup, oui, il y avait des tests PCR tous les jours.
Même pour vous ?
Pour nous, on en a fait au début du tournage et à la fin. Et surtout, nous, on était isolés dans notre hôtel, en fait, dans notre chambre d'hôtel. On faisait les réunions pour préparer l'émission par visioconférence. Donc moi, j'ai surtout vu ma chambre d'hôtel pendant les 10 jours. On se faisait même maquiller dans la chambre pour pas risquer de se croiser dans les loges. Et on arrivait au dernier moment sur le tournage et on était séparés avec Denis Brognard, avec un plexiglas comme vous avez ici dans le studio.
Mais c'est parce que Denis Brognard, il postillonne beaucoup, il paraît.
Ah bah, c'est-à-dire que dans cette émission...
Enfin, il est connu pour ça. Hein,
je vous confirme, c'est vrai en plus. Mais dans cette émission, on postillonne beaucoup parce qu'on commente et on est très excité par les performances de nos candidats. Donc forcément, il y a du postillon qui sort.
Alors les candidats, vous décriviez à l'instant ce grand barnum. C'est tactile comme jeu, enfin on touche toutes les épreuves. Alors là, comment faire? Il fallait désinfecter à chaque fois?
Alors il y avait effectivement des désinfections régulières parce qu'on s'appuie sur différents, comme des espèces de trapèzes, des poignées, etc. Donc forcément, le tournage a du coup duré plus longtemps. Et puis nos candidats devaient bien sûr se oindre les mains de gel hydroalcoolique. Et c'est là qu'on a galéré pour trouver le bon gel hydroalcoolique. On en a testé plusieurs parce que le problème, c'est que parfois, ça laisse les mains un peu glissantes, un peu poisseuses.
Il faut mettre du talc.
Alors si on met du talc, ça ne marche plus avec le gel hydroalcoolique.
Oh, donc
du coup, on a cherché des gels hydroalcooliques qui pouvaient permettre de ne pas avoir les mains trop collantes et glissantes. Voilà.
Ninja Warrior saison 5 extrait.
Salut, c'est.
Oh, wow. Il a le will, the Iron Spirit.
C'est vrai. Non,
jamais. C'est un candidat fou qui s'appelle Phil Good. Ça, c'est lui qui est venu avec sa chanson. Là.
Ouais.
C'est un candidat qu'on a depuis plusieurs années. Ouais.
Alors, c'est visuel, faut dire ce qu'il y a.
Oui,
Ninja Warrior.
Bon,
enfin, c'était une expérience de diffuser le son. Vous avez une pression d'audience, forcément?
Alors, il y a toujours une pression d'audience. Après, on n'a pas de chiffres particuliers. Il n'y a pas d'objectif d'audience, comme on dit. Le principal, c'est que ça marche.
Oui, mais c'est combien ça marche?
Il n'y a pas de chiffres précis.
Oui, mais comment serez-vous par rapport à l'an dernier?
Oui, par rapport à l'an dernier. Après, on est sur une période où l'émission n'a jamais été diffusée sur une période hivernale, donc tout dépend. Voilà, donc ça, on en parlera le lendemain de l'émission en fait, pour vraiment s'en rendre compte. On verra, c'est un risque en tout cas de diffuser à cette période là, mais je pense que les gens en ont besoin.
Un
risque relatif,
mais
en tout cas, les enfants seront encore à la maison parce que on a encore un samedi de vacances et il y a beaucoup d'enfants qui regardent cette émission, donc je pense que ça va pouvoir réunir toute la famille. Et c'est ce genre d'émission là que j'aime présenter, de réunir la famille devant la télé.
Christophe Beaugrand est dans Culture Média ce matin, on se lave les mains et on revient tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Actualité chargée pour Stéphane Beaugrand.
Alors, je m'appelle Christophe, mais c'est pas grave.
J'ai dit quoi?
Stéphane, mais c'est pas
mais
grave.
Mais ça vous va bien aussi.
C'est comme Stéphane Plaza.
Alors, je ne sais pas d'où ça sort.
Bah, vous serez dans le bêtisier de l'année prochaine.
C'est ça, je veux bien. Ouais. Christophe Beaugrand, évidemment. Le grand bêtisier du 31 jeudi sur TF1 et dès samedi, le lancement de la saison 5 de Ninja Warrior. Question spéciale, langue de bois. Comment vous sentez-vous dans le groupe TF1?
Ah bah écoutez, alors pour le coup, c'est genre, vous pouvez, non mais oui, ça vous fait rire, mais pour le coup, j'ai la chance, et c'est assez exceptionnel, de pouvoir à la fois incarner des divertissements et du pur divertissement sur TF1, pour pouvoir aussi faire le grand écart en faisant de l'info et de la pure info sur LCI.
Sur LCI, le brunch le de l'info, week-end.
Exactement, le samedi, mais dimanche, 10h midi.
Est-ce que ça vous a pas desservi de courir plusieurs lièvres à la fois? Est-ce que du coup, vous n'êtes pas... un peu dispersé. Je ne parle pas de vos activités,
non,
je parle
comprends.
De l'image que vous
je
renvoyez.
Je comprends ce que vous pouvez dire, mais ce que vous pouvez imaginer, mais en tout cas, je n'ai pas eu le sentiment de courir plusieurs lièvres à la fois. C'est simplement que dans la vie, on a une personnalité multiple et plusieurs facettes. Et moi, je suis autant passionné par la politique que par Lady Gaga. Vous
oui,
voyez
mais l'acceptation n'est peut-être pas celle-là, publiquement.
Bah, écoutez, moi, je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on ne pourrait croire. Et,
je ne parle pas des gens, là, je parle des dirigeants. Hein.
Ah, bah alors, les dirigeants, ils me permettent de le faire. Donc, ça doit vouloir dire qu'ils ont une certaine ouverture d'esprit. C'est-à-dire que j'étais à la fois sur Secret Story et sur LCI en même temps. Et je pense que quand on est sincère dans la démarche et quand on bosse, surtout quand on est bosseur, ce qui est mon cas pour le coup, je pense qu'on est accepté par le public. Au début, LCI, ils ont hésité. Hein. Ils se sont posé la question. Ils me connaissent depuis longtemps. J'ai commencé à LCI en 99. Donc j'ai beaucoup d'années d'expérience dans la chaîne. Ils savent que je suis un vrai journaliste aussi, en plus d'être un animateur de divertissement. Et du coup, on a fait des tests, j'ai fait des remplacements pour voir si le public d'LCI m'acceptait, entre guillemets.
Ah ouais, votre image est testée,
pour l'info.
C'est ça.
Non, c'était simplement pour voir en termes d'audience si jamais les gens se barraient. C'est tout. On n'a pas fait d'études de marché plus précisément, mais à un moment donné, quand on incarne une tranche pendant 2 heures sur une chaîne info, si jamais les gens n'ont pas confiance, n'ont pas envie de vous écouter, n'ont pas envie de vous regarder, de vous entendre, ils changent de chaîne. Hein. Il y a beaucoup de concurrence, donc on s'en rend bien compte. Et il se trouve que l'émission marche très bien. Ça montre que les gens ont parfois l'esprit plus ouvert que les gens du métier.
Oui, peut-être, c'est fort possible. En parlant de concurrence, est-ce que vous ne rêvez pas trop de Camille Combal la nuit? J'ai l'impression qu'il est arrivé, qu'il a pris un peu les bons plans, non?
Il a pris Il a pris beaucoup d'émissions, ça c'est sûr, mais j'en ai toujours, donc tout va bien. Dans une chaîne, à un moment donné, il y a un certain nombre de projets qui arrivent et on met sur ces projets la personne qui est idéale pour l'incarner. Il se trouve que sur les derniers projets, ça a été Camille Combal. Sur d'autres projets, ça peut être moi. Il y a un an et demi, 2 ans, j'ai tourné avec Laurence Boccolini. On avait été choisi pour faire Big Bands, qui est une émission où on s'est beaucoup amusé, qui n'a hélas pas connu de saison 2 parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec la production, mais il aurait pu y avoir une saison 2. Voilà, après, vraiment, c'est très variable. Moi, je mène mon petit bonhomme de chemin aussi différemment dans la mesure où je suis aussi journaliste. Donc, je pense qu'on a deux profils extrêmement différents. Il fait du pur divertissement. Il ne pourra pas faire ce que je fais. Je ne peux pas faire ce qu'il fait non plus. Je n'irai pas faire un prime de parodie comme il le fait extrêmement bien. Il n'ira pas faire un talk show politique sur LCI. Donc, je pense que chacun a son identité et chacun a sa place.
On l'esquissait tout à l'heure. Peut-être que vos priorités ont un peu évolué. Christophe Beaugrand, depuis que vous êtes papa, c'est vrai ça?
J'ai appris à dire non. Mais vraiment, professionnellement, je ne disais jamais non. Je n'arrivais pas. J'avais ce blocage-là, peut-être la peur du vide ou la peur qu'on ne me propose pas autre chose si jamais je dis non à un projet. Donc, effectivement, j'ai dit non, notamment à la 3e saison de l'émission de télé-réalité que je présentais sur TFX, qui s'appelait La Bataille des Couples, enfin qui s'appelle toujours La Bataille des Couples, et qui me contraignait à tourner 2 mois en République dominicaine. Il était hors de question que je m'en aille loin de mon bébé pendant 2 mois. Désormais, j'ai une priorité dans la vie, c'est mon petit garçon. Il a fêté ses 1 an le 9 novembre, et tout tourne autour de lui désormais. Donc voilà, je lui demande avant d'accepter.
Alors,
ou pas un projet.
Comment va Valentin? Comment va Ghislain?
Mon
parce
mari,
que, bon,
oui.
Comme je les vois dans la presse, j'ai l'impression de les connaître un peu, vous voyez, je sens une proximité, voire une intimité.
Eh bien, c'est fait exprès.
Vous ressentez ce besoin-là de vous exposer?
Alors, pour le coup, c'est vraiment un choix que nous avons fait avec Ghislain, depuis notre mariage notamment, parce que je pense qu'il y a un besoin de visibilité pour les familles homoparentales notamment. Et effectivement...
C'est uniquement pour ça, c'est-à-dire que...
Ah oui, vraiment.
Ouais.
Moi, je suis engagé contre l'homophobie depuis très longtemps. Quiconque me connaisse sait que ça fait partie vraiment de mes combats. Et il se trouve que l'homoparentalité n'est pas toujours très bien acceptée. Il peut y avoir parfois des insultes, il peut y avoir des difficultés au quotidien. Donc nous, on a décidé de montrer l'exemple d'une famille. Je ne dis pas que toutes les familles sont comme celle-ci, mais en tout cas, l'exemple d'une famille avec 2 papas, un petit garçon, et ça se passe très bien. Alors, je mets toujours...
Un petit garçon né par GPA aux États-Unis.
Par GPA avec une mère porteuse aux États-Unis. Je cache toujours son visage, évidemment, parce que moi, j'ai choisi d'être dans la lumière, mais pas lui.
On le voit un petit peu, on voit son profil.
On le voit un petit peu, on le voit un petit peu.
Le petit Valentin.
L'idée, c'est vraiment de faire en sorte, grâce à la visibilité, de normaliser les choses. Et je reçois énormément de messages de familles homoparentales, que ce soit de maman, de papa, etc., qui m'envoient des messages en me disant « c'est bien ce que vous faites, on a besoin de ça ». Et je pense que c'est par la visibilité que ça passe.
Est-ce qu'hélas aussi, Christophe Beaugrand, vous recevez, vous continuez à recevoir des... ce qu'on appelle des messages de haters, les gens qui...
À votre avis, oui, oui,
Je pense que oui, si je vous pose la question, mais moins, comment faire avec ça?
Alors, on bloque ou on porte plainte parfois, mais non, honnêtement, de moins en moins. C'est ça qui est intéressant. Je me rends compte, moi, avec les messages, les photos que je poste, etc., que je reçois surtout des messages positifs.
Ça évolue quand même,
alors. Je suis convaincu. Alors, moi, je suis un indécrottable optimiste. Donc, moi, je suis convaincu que ça évolue. Et pour que ça évolue, il faut aussi avoir le courage de se montrer. Et je pense que c'est important quand on est homosexuel, à mon sens. Après, chacun voit midi à sa porte, mais je pense que c'est important en termes de visibilité de dire qui l'on est. Et en même temps, les gens, soit ils vous apprécient d'autant plus, soit ils vous aiment pas, mais au moins ils savent pourquoi et ils savent à qui ils parlent. Et je pense que c'est très important de pouvoir se reconnaître et de pouvoir avoir, notamment pour les jeunes ados qui se découvrent homosexuels, pour qui c'est difficile, c'est important d'avoir ces rôles modèles.
Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021? Une autre émission ou un autre enfant, au choix?
Alors non, un autre enfant, non, mais que ça continue comme ça. J'ai la chance de vivre du boulot que je rêvais de faire quand j'étais gamin. J'ai toujours rêvé de pouvoir fonder une famille, d'avoir un enfant. C'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Donc moi, je suis le plus heureux des hommes. Donc oui, je veux bien une autre émission, avec plaisir.
Ouais. Ou alors gagner au loto, mais ça fera un peu louche parce que vous le présentez parfois.
Ah oui, gagner au loto, comme ça je fais plus d'émission du coup. Je pars à Tahiti. Voilà.
Merci beaucoup Christophe Beaugrand d'être passé par Culture Média, le grand bêtisier du 31, c'est-à-dire jeudi sur TF1 et Ninja Warrior saison 5 dès samedi. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
À suivre après 10h dans Culture Média, François Berléand vient nous raconter son expérience jouée au théâtre, une comédie censée faire rire, mais l'a jouée quasiment sans public. Une heure de tranquillité passe ce soir sur France 2. Eva Rock, série en série, ce matin un foulard et un crâne rasé, devinez. Nicolas Caro, semaine littéraire, aujourd'hui oui, oser la poésie, et puis première page. Vous découvrirez le début du nouveau roman de Jean-Philippe Toussaint à paraître aux éditions de Minuit, La disparition du paysage. Tout cela après les infos de 10h. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.